écoutez Europe 1, il est 12h30 et c'est le journal de la mi-journée avec vous Thierry Dagiral.
Bonjour Johanna, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur Europe 1. À la une, Biarritz, ville fantôme à quelques heures du coup d'envoi du G7 des zones de sécurité. Plus de 13 000 policiers et gendarmes, et nous serons sur place dans un instant avec Pierre Herbulot. Dans l'actualité de ce vendredi midi également, les feux qui sévissent en Amazonie et qui virent à la crise diplomatique entre Paris et Brasilia. Le président brésilien accuse Emmanuel Macron d'avoir une mentalité colonialiste alors que le président français souhaitait aborder le sujet demain à Biarritz. Les faits et l'analyse politique dans ce journal. Nous irons à Toulouse, où la France insoumise fait sa rentrée jusqu'à dimanche, un parti en proie au doute et qui veut se réorganiser. Terminez le crédit d'impôt pour isoler votre maison à partir de janvier prochain. Vous toucherez une prime qui dépendra de vos revenus. Explication dans ce journal. Et puis Strasbourg en joie après sa victoire hier soir face à Francfort en match aller des barrages de la Ligue Europa. Avant 13h, une dernière balade d'été au sud de Porto Vecchio en Corse et puis le conseil lecture de Stéphane Place, un livre jeunesse aujourd'hui. La fin des vacances pour beaucoup d'entre vous. Avec du monde sur les routes aujourd'hui est classé orange sur la majeure partie du pays, mais rouge dans tout le sud de la France et jusqu'au Pays de la Loire. Demain, la circulation sera très difficile. Bison futé, voie rouge sur toute la France. Et vous roulerez sous le soleil, Valérie Darmon, du soleil et des averses orageuses sur l'extrême sud-est du pays.
Et oui, toujours exactement le même temps qu'hier et qu'avant-hier. Le soleil qui brille généreusement partout, sauf sur le sud-est où l'ensoleillement est moins franc et le ciel orageux en fin de journée. Les températures, elles atteignent 27 à 32 sur la moitié nord, 28 à 33 au sud, jusqu'à 34 en basse vallée du Rhône, 35 dans l'intérieur de l'Aquitaine et dans les Elles continuent leur progression.
Météo complète avant 13h et puis à 13h, la France bouge avec Elisabeth Assayeg aujourd'hui.
Europe 1.
Biarritz, ville assiégée, bunkerisée, hein, une ville balnéaire transformée en forteresse. La gare et l'aéroport sont fermés, les forces de l'ordre sont déployées. Il faut un badge pour circuler dans la ville, le G7 ne commence que demain. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Thierry.
Vous êtes sur place Pierre, il n'y a personne ou presque, c'est une ville fantôme à quelques heures du début du G7. Hein.
Oui, ça y ressemble de plus en plus. Je me trouve sur la place Sainte-Eugénie, juste en face de la mer. Il y a plein de cafés habituellement bondés. Et là, franchement, à part un vieux monsieur qui lit le journal et un confrère caméraman, c'est complètement vide. Il faut dire que les restrictions de circulation sont drastiques. Écoutez cette conversation entre une commerçante et une habitante.
Moi, ce matin, j'étais au casino, donc je voulais remonter côté plage comme d'habitude. Non, c'est fermé, c'est privé. Donc il faut remonter, faire demi-tour, et je me remontais, tu sais, par les petits sentiers là qui remontent là. Je te retrouvais bloqué, on a fait le repasser de l'autre côté. Donc, ici, on ne peut pas passer du tout.
Des contrôles à tous les coins de rue qui ont eu raison de la patience d'Umberto. Cet Italien est coincé devant un barrage policier en maillot de bain avec sa planche de surf.
J'attends parce qu'ils ne veulent pas me laisser rentrer dans mon hôtel. En fait, je suis allé surfer ce matin. On m'a dit que si j'allais à la côte des Basques, je pourrais revenir dans mon hôtel. Mais ils ne veulent pas me laisser passer parce que je n'ai pas de badge. La police me dit que je dois appeler l'hôtel, mais je n'ai pas de téléphone sur moi. C'est ridicule.
Résultat, on peut dire sans se tromper, Thierry, que les commerçants du centre-ville ne feront pas leur meilleur chiffre d'affaires de l'année pendant le G7 et surtout pas cette vendeuse de prêt-à-porter féminin.
Ce soir à 18h, on a des rendez-vous à tous les policiers.
Alors, ce n'était pas la vendeuse de prêt-à-porter, mais elle m'a raconté tout à l'heure qu'elle n'a eu tout simplement aucun client. Voilà, il est midi déjà, aucun client. C'est absolument inédit pour elle. On se croirait, en plein hiver souffle un autre habitant qui n'a pas l'air, lui, d'avoir peur du vide dans sa ville et qui ne s'incommode pas non plus du bruit des hélicoptères qui survolent Biarritz à peu près tous les quarts d'heure depuis ce matin.
Merci beaucoup Pierre Herbulot à Biarritz pour Europe 1. La sécurité donc un enjeu bien sûr majeur de la bonne réussite de ce sommet. 13 200 policiers et gendarmes mobilisés, 44 compagnies de CRS, 48 escadrons de gendarmerie mobile. Seulement voilà, les policiers sont épuisés et marqués par les suicides en série de leurs collègues. Hier encore, une policière parisienne a été retrouvée morte dans son véhicule garé sur un parking de Drancy en Seine-Saint-Denis. 47 suicides depuis le début de l'année. Alors pour marquer le coup, les policiers appellent à la mobilisation ce soir à un barbecue de la colère à 18h au Pays Basque, dans un endroit encore tenu secret. Écoutez, Yves Lefebvre, c'est le secrétaire général d'unité SGP Police.
Ce soir à 18h, on a des rendez-vous à tous les policiers qui ne seront pas mobilisés et en service, mais qui sont engagés sur le G7, à venir se joindre à cette action avec le syndicat Alliance pour exprimer effectivement cette colère, pour réclamer les états généraux de la police nationale dès la rentrée, pour qu'on puisse enfin aborder sérieusement la problématique du temps de travail, la problématique des risques psychosociaux, 47 suicides aujourd'hui. J'ai fixé un ultimatum, hein, je le lui ai redit en tête à tête mercredi soir à Christophe Castaner. Il y a urgence à agir, sinon nous on entrera dans un conflit social sans précédent dans la police nationale, avec non pas une journée de commissariat mort, mais des commissariats morts pour une durée indéterminée.
Voilà le secrétaire général d'unité SGP Police avec Guillaume Bié.
Europe 1, il est 12h36, la suite de votre édition de la mi-journée, Thierry Dagiral.
Avec le G7, où il sera donc aussi sans doute question des incendies qui ravagent l'Amazonie, c'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron. Vous avez sans doute vu ces images de Sao Paulo plongées dans le noir par d'épaisses fumées. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour.
Ça fait 2 mois maintenant que l'Amazonie brûle, et pendant ce temps-là, le président brésilien Bolsonaro préfère pointer du doigt les ONG.
Ah oui, une diversion pour éluder le problème. Plus de 70 000 départs de feu ont eu lieu depuis janvier, c'est le double de l'an dernier. La raison principale de ces incendies, c'est clairement la déforestation. Brûler la forêt pour cultiver la terre ou faire de l'élevage, Jair Bolsonaro en a fait le cœur de sa stratégie depuis son arrivée au pouvoir. Selon Gaspar Estrada, il est politologue et spécialiste de l'Amérique latine.
Aujourd'hui, le gouvernement de Jair Bolsonaro souhaite favoriser l'exploitation du soja, l'exploitation agricole de manière plus générale, de minerais. Je pense notamment à l'or qui se trouve dans le nord de l'état de Roraima, qui est donc frontalier avec la Guyane française. C'est l'état brésilien qui encourage à ce que cette déforestation ait lieu et c'est ce qui inquiète le monde entier.
Le monde entier, puisque l'Amazonie, rappelons-le, est un puits de carbone et produit 20% de notre oxygène.
Alors Pauline, il y a eu des sanctions internationales contre la politique de Bolsonaro.
Exactement, la Norvège a bloqué des subventions, l'Allemagne aussi, 30 millions d'euros à chaque fois destinés à l'Amazonie, ce qui inquiète une bonne partie de la classe politique, même les milieux conservateurs et proches des lobbies agricoles ont réagi. Après Lula, ils dénoncent un virage à 180 degrés de leur président, surnommé désormais au Brésil « capitaine tronçonneuse ».
Pauline Jacquot pour Europe 1, merci à vous. Et ce drame environnemental est en train de virer à la crise internationale. Notre maison brûle, a tweeté hier soir le président français, appelant à prendre donc des mesures pour sauver ce poumon qui produit 1/5 de l'oxygène de la planète. Il veut donc voir le sujet abordé ce week-end lors du G7. Réponse du Brésilien Jair Bolsonaro, il s'agit d'une prise d'initiative colonialiste, a-t-il rétorqué. Alors on va s'arrêter un instant sur cet échange tendu à distance, parce que finalement, David Doucan, ça illustre très bien ce qui se joue en ce moment, finalement, entre les démocrates et, on va dire, les populistes.
Oui, c'est une escarmouche dans un conflit à l'échelle mondiale. C'est parce que cette opposition, celle que vous venez d'évoquer, est devenue l'alpha et l'oméga des relations internationales que les mots échangés sont aussi durs. L'Amazonie est aujourd'hui le symbole de cette confrontation avec des conséquences concrètes. L'accord commercial entre l'Europe et le Mercosur, vous savez, ces pays d'Amérique latine, cet accord, il doit encore être ratifié. Écoutez ce que disait la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher ce matin sur Europe 1.
Je rappelle que l'accord du Mercosur prévoit une clause de respect des engagements de Paris avec un mécanisme de sanction si ce n'est pas respecté. C'est bien l'objet, c'est-à-dire que pas de bras, pas de chocolat. Vous ne voulez pas vous investir dans le sujet des accords de Paris, vous n'aurez pas accès aussi facilement que vous le souhaitez à nos marchés. Il faut installer un rapport de force avec le gouvernement brésilien si on veut obtenir quelque chose.
Le rapport de force qui promet des échanges glaciaux à Biarritz. Donald Trump est un puissant soutien de Jair Bolsonaro. Ils sont sur la même ligne sur la question du réchauffement climatique. Emmanuel Macron va donc lui parler de l'Amazonie, mais trouvera-t-il une oreille à l'écoute ? On peut en douter. Rendez-vous compte que leur rencontre en tête-à-tête n'est même pas encore calée. L'Élysée n'est toujours pas en mesure de donner ni une date, ni un horaire. Et le sommet commence demain.
L'analyse de David Doucan, le chef du service politique d'Europe 1. À suivre, gros coup de rabot à venir sur les aides à la rénovation énergétique. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, il est 12h41, la suite de votre édition de la mi-journée, Thierry Dagiral.
Et ça va bouger dans les aides à la rénovation énergétique de vos logements. C'est aujourd'hui que s'achève la concertation entre le gouvernement et les acteurs du secteur. Concertation pour simplifier le millefeuille, jusqu'ici très complexe, des nombreux dispositifs. À partir du 1er janvier prochain, lorsque vous referez l'isolation de votre maison, par exemple, vous ne toucherez plus un crédit d'impôt, mais une prime calculée en fonction de vos revenus et de votre situation familiale. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour.
Ça peut paraître plus simple, mais c'est en réalité un énorme coup de rabot finalement sur le montant des aides qui va être fait, c'est ça hein ?
Oui, l'enveloppe n'est plus très épaisse. À partir du 1er janvier 2020, c'est toute une frange de la population française qui n'aura plus droit aux aides à la transition énergétique, notamment les Français les plus aisés. Le gouvernement se justifie en expliquant vouloir recentrer son dispositif sur les ménages les plus modestes, mais en réalité c'est une réduction drastique du budget, dénonce Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment.
C'est pas un tout petit coup de rabot, hein. On parle d'1,8 milliard qui était consacré au crédit d'impôt transition énergétique. À l'année prochaine, je sais pas, 400 millions, 300 millions. Donc, voyez, on comprend bien qu'il peut avoir des problèmes budgétaires dans notre pays, mais à ce moment-là, il faut sans doute être peut-être moins ambitieux, peut-être moins moralisateur dans le discours, tant qu'on ne s'est pas donné les moyens de nos ambitions.
Un coup de rabot qui passe mal auprès des professionnels du secteur. La transition énergétique ne peut pas se faire sans les Français les plus aisés, car ce sont eux les propriétaires des logements, enrage un autre acteur de la rénovation énergétique, qui dénonce par ailleurs un système d'aide basé sur une multitude de critères et donc encore plus compliqué à comprendre que le précédent.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La rentrée politique à présent, parallèlement à la rentrée d'Europe Écologie Les Verts, se tiennent les amphis d'été de la France Insoumise. C'est jusqu'à dimanche à Toulouse. Bonjour Adrien Beck.
Bonjour.
Vous êtes sur place Adrien. Pour les Insoumis, c'est une rentrée sous le signe de la réorganisation, hein ?
Oui, et l'absence de Jean-Luc Mélenchon lève d'ailleurs peut-être quelques freins à cette réorganisation, ou plutôt cette refondation, mot employé il y a quelques minutes par le fraîchement nommé coordinateur du mouvement, Adrien Quatennens. Il faut dire qu'après des européennes calamiteuses, 6%, la France insoumise s'interroge sur sa place d'opposant à Emmanuel Macron. Réorganisation interne donc, même si pas grand-chose de concret pour l'instant, et signe d'ouverture vers l'extérieur, coïncidence ou pas. Les Verts organisent, vous avait dit, leur université d'été à quelques encablures d'ici, à l'université du Mirail, et les cadres d'Europe Écologie Les Verts ont accueilli hier soir notamment Adrien Quatennens.
Bah oui, on nous invitait à boire un verre, nous y sommes allés. Tout le monde n'est pas d'accord au sein d'Europe Écologie Les Verts sur ce qu'il s'agit véritablement de faire face à ce système, et pour autant les discussions ont lieu, et comme il y a des discussions ici au sein de ces amphis, nous sommes heureux de pouvoir continuer à participer à ces débats salutaires.
Et aujourd'hui, ces petits signes de rapprochement se poursuivent. L'écologiste David Cormand est attendu ici à la France Insoumise pour rencontrer François Ruffin dans quelques minutes, lequel se rendra ensuite de l'autre côté de la Garonne chez les Verts. Rapprochement géographique et souhait de rapprochement politique. Les municipales sont en ligne de mire, même si, de l'aveu même des Insoumis, les différences, notamment sur les questions économiques, restent tenaces.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1, sur place à Toulouse. À présent, cette histoire rocambolesque, très rare sous la Ve République, le maire d'Hesdin dans le Nord, a donc été révoqué mercredi dernier en Conseil des ministres après avoir accumulé les casseroles, mais il continue à faire parler de lui. On était sans nouvelles, on le pensait en fuite. En fait, non, Lionel Gougelot, Stéphane Ziefkowski-Samier est tout simplement au soleil.
Il a répondu à sa révocation par une provocation. Une photo publiée hier après-midi sur Facebook où l'on voit Monsieur le maire en vacances faire du bateau aux Bahamas. Et en légende de la photo, Stéphane Ziefkowski-Samier met ce commentaire « touché mais pas coulé ». Ça indique en tout cas, comme son avocat le confirme, qu'il est bien décidé à contester cette décision du Conseil des ministres devant le Conseil d'État. Depuis 2014, le mandat de l'ex plus jeune maire de France n'est qu'une succession d'affaires et d'écarts de conduite. Il a fait sourire les gazettes quand il s'est fait arrêter sans casque au guidon d'un quad avec une Miss France. Mais quand il a acheté deux armes de poing avec l'argent de la ville, ou quand il a décidé d'attribuer la gestion des logements communaux à l'agence immobilière dirigée par sa mère, ce fut le début de la tourmente pour le golden boy de la politique. Garde à vue, mise en examen, révolte des élus de sa majorité et finalement une inéligibilité de 3 ans décidée par le Conseil constitutionnel. Il doit comparaître le 15 septembre prochain pour sa gestion présumée frauduleuse des affaires de sa ville, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a engagé un recours contre sa révocation. Elle n'a pas lieu d'être selon lui, puisqu'il n'a pas encore été condamné. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
À suivre, la joie de Strasbourg hier soir à la Méno qui s'est imposée contre Francfort en Ligue Europa. A tout de suite.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h48 et c'est la suite de votre édition de la mi-journée avec vous Thierry Dagiral.
Et avec Strasbourg qui fait un premier pas vers les phases de groupe de la Ligue Europa, les Strasbourgeois qui ont battu Francfort hier soir en match de barrage aller 1-0 à la Méno. Il faudra bien sûr valider cette victoire au match retour dans une semaine, mais... quelle ambiance hier soir à la Méno, Jean-François Pérez.
Oui, vous l'entendez, Strasbourg reverdi, hein, puisque c'est un extrait d'Aïda, symbole du bonheur alsacien. Hier soir, ils étaient encore plus de 20 000 à la Méno, l'une des plus belles ambiances de stade en France ces dernières années. Et puis sur le terrain, eh bien, des joueurs au diapason. Francfort est tout de même demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, c'est une valeur sûre hein, du foot allemand. Mais l'équipe de Thierry Loret a une âme, du talent et un petit peu de chance aussi sur le but de son attaquant Kevin Zoe. Strasbourg qui brille sur la scène européenne. Il faut savoir qu'il y a 8 ans à peine, jour pour jour, le club était placé en liquidation judiciaire. La résurrection n'en est que plus belle. On écoute Dimitri Liénard, l'un des joueurs les plus emblématiques du Racing.
Ouais, c'est beau. J'avais dit qu'il fallait une Méno en transe pour avoir un résultat favorable. C'est chose faite. Ça a été un très gros match. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a 6 ans, on partait de rien pratiquement. Et ce soir, on est aux portes de l'Europe.
Voilà, mesuré Liénard à juste titre, hein, il dit aux portes de l'Europe parce que le match retour en Allemagne jeudi prochain s'annonce brûlant. Francfort, c'est comme la Méno, en deux fois plus grand, avec des supporters tout aussi fervents. L'OM, l'Inter Milan ou encore Benfica peuvent en témoigner. Tous ont subi la loi de l'Eintracht la saison passée, mais vous l'aurez compris Thierry, impossible n'est pas strasbourgeois cet été.
Jean-François Pérez, le patron des sports d'Europe 1. Et puis un mot d'athlétisme pour vous dire que l'Américain Christian Coleman pourrait manquer les Mondiaux de Doha fin septembre prochain. Le vice-champion du monde de 100 mètres aurait manqué 3 fois à ses obligations de contrôle antidopage, ce qui constitue une infraction.
À présent, comme tous les jours de cet été, une balade en France.
Et oui, dernière balade d'été avec Romane Hockey, qui était toute la semaine en Corse, la chanceuse. Aujourd'hui, on va à la plage, au sud de Porto Vecchio.
Bordé par les dunes, des pins gigantesques et des rochers ocres qui plongent dans une eau cristalline, Palombadj a l'une des plus belles plages de France. Aujourd'hui très fréquentée, autrefois sauvage, accessible par un sentier. Nous sommes dans les années 60 avec la petite Gabi, 16 ans.
Ce sentier, on l'empruntait pour le pique-nique du lundi de Pâques, la Mirandelle, comme on l'appelait. Et les gens descendaient sur Palombadj. On sait bien, il y avait le prisout, il y avait du vin. C'était vraiment un moment... exceptionnel.
3 heures de marche, puis l'arrivée. Oubliez le bruit de la foule et laissez Gabi vous raconter.
Vous arriviez dans un endroit pratiquement désert. Voilà, tout était calme. Ça ressemblait au paradis. Il y avait juste une paillote. C'était celle de M. Terrasson, l'oncle de Marc Terrasson que vous verrez tout à l'heure.
On va aller voir. Voilà.
En 1959, l'oncle de Marc crée la première paillote de la plage. Quelques frigos, une plaque chauffante artisanale. Mais très vite, le restaurant familial va changer de dimension.
La route venait jusque-là, jusqu'ici, goudronnée. Entre 73-74 années.
Ben, accessible.
Accessible pour tout le monde, pour les touristes, pour les fournisseurs qui pouvaient apporter les marchandises. Tout à fait.
Une route qui n'existe plus aujourd'hui. À la place, un parking bondé, dissimulé derrière la verdure. Pierre, la cinquantaine, redécouvre la plage de sa jeunesse.
Plus de 20 ans que je ne suis pas venu à cette plage. C'est moins dramatique que je le pensais. Vous voyez, je découvre la plage en même temps que vous.
Vous reviendrez maintenant ici ?
Non, il y a beaucoup trop de monde. Vous imaginez que j'habite quasiment à la plage, je n'y vais pas. Après, j'ai beaucoup de mal à accepter le changement, je sais.
Une nostalgie que ne connaissent pas les plus jeunes. Sur le sable de Palombadja, il y a Catherine, 28 ans.
Vous venez à la plage ici l'été ?
Oui, oui, mais comme je disais, vu que ma fille... un peu du mal avec le sable. Oui, on reviendra avec elle.
Qu'est-ce que vous lui diriez si vous deviez lui présenter la plage ?
J'espère que plus tard tu vivras nos moments qu'on a vécu ici et tu sauras autant apprécier ce trésor.
Un héritage même qui se transmet sur ce rocher à l'ombre d'un pin plongé dans le paysage.
Ça fait rêver. Un dernier bain signé, Romane Hockey.
Et il ne faut surtout pas oublier un livre dans son sac pour partir à la plage.
Et un conseil lecture, le dernier conseil lecture aussi, de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux. Un dernier coup d'œil consacré à un livre jeunesse, bien normal à 10 jours de la rentrée scolaire, Le Monde de Lucrèce aux éditions Gallimard Jeunesse. Stéphane Place.
Une mère avocate débordée, un beau-père aiguilleur du ciel qui peut passer une journée entière sur un problème de maths, un papa artiste qui se refuse à vendre ses œuvres, sans oublier un petit frère Victor qui consacre beaucoup de temps à sa console de jeu et au désingage des zombies. Ah, et puis deux grand-mères très différentes, Arlette qui préfère qu'on l'appelle Scarlett, fan de proverbes, et un peu déjantée, et puis une seconde qui a la mémoire qui flanche. Voici le monde de Lucrèce, jeune fille qui fait son entrée au collège, élève sérieuse, attachante, qui prend soin de Madonna, sa tortue, les aventures de Lucrèce, une lecture que vous recommande Adeline Macera, libraire chez Mola.
L'immédiate fraîcheur que j'ai ressentie en commençant ce livre, Lucrèce, c'est une petite jeune fille parisienne de nos jours, qui de temps en temps a juste envie d'être beaucoup plus grande. Enfin, cet âge vraiment charnière, elle rentre en sixième, hein, au tout début du tome 1. Elle est entourée de personnages assez hauts en couleur qui lui permettent de voir les choses de manière un peu distancée.
C'est un livre illustré, mais c'est pas une BD.
Non, c'est vraiment un roman dans lequel il y a beaucoup d'illustrations. Je suis un parent et je me suis beaucoup amusée. J'adore le personnage de la mère de Catel, qui est absolument génial. Après, je pense qu'elles l'ont quand même pensé pour des jeunes gens. CM1, CM2, même 6e, fin de 6e, ça me semble la bonne cible.
Le monde de Lucrèce est né d'une amitié qui a réuni l'auteur Anne Goscinny et l'illustratrice Catel.
Alors Lucrèce, c'est notre fille, Anne et moi, parce qu'on s'est mariés, en tout cas sur le papier. Elle a une fille qui s'appelle Salomé. Ça fait Lucrèce, puisque son mari voulait que sa Salomé s'appelle Lucrèce, et elle lui a promis qu'elle lui ferait plus tard un enfant, qu'elle a fait avec moi. Et moi-même, ma fille Lynn, eh bien, c'est devenue une des trois amies de Lucrèce, puisqu'elle s'appelle toutes les trois Lynn. Ça, c'est un peu notre association, qui est une histoire, évidemment, au début d'amour, d'amitié. Notre enfant sur papier, c'est cette petite Lucrèce.
Les illustrations sont réussies et le plaisir de lecture garanti. Auteur de romans, c'est la première fois qu'Anne Goscinny se lance dans la littérature jeunesse.
C'est une écriture extrêmement exigeante et qui ne permet surtout pas que le lecteur se sente abandonné, même le temps d'une phrase ou le temps d'un mot. Donc il faut être tout le temps présent, il ne faut jamais lâcher la main du lecteur qui, lui, n'a qu'une envie, les jeunes lecteurs, on les connaît, c'est de fermer le livre et de repartir sur sa tablette sur laquelle il peut tuer des vampires, des zombies, faire tout un tas de trucs vachement plus intéressants.
Le monde de Lucrèce d'Anne Goscinny et Catel, ce sont trois tomes et un quatrième qui paraîtra bientôt en octobre prochain.
Voilà, le monde de Lucrèce d'Anne Goscinny et Catel donc. Bonne lecture à tous.
Dans un instant, à 13h, rendez-vous avec Elisabeth Assayag pour le meilleur de la France bouge. On va parler du stationnement dans les centres-villes et des solutions intelligentes imaginées pour répondre aux diverses problématiques. La révolution dans nos parkings, ce sera dans quelques minutes.
Valérie Darmon, vous arrivez avec de bien belles nouvelles. Vous me dites chaleur et soleil tout le week-end, ça c'est bon.
Eh oui, sur la majeure partie de la France, le temps qui reste très calme, bien ensoleillé, estival, température en hausse. Au petit matin, demain, quelques nappes de grisaille qui traînent ici ou là sur le Nord-Pas-de-Calais ou en Val-de-Saône qui vont se dissiper très rapidement. Sur le nord-ouest de l'Hexagone, des bancs nuageux qui circulent sans altérer l'impression de beau temps. Sur le sud-est, comme les jours précédents, le temps qui est un petit peu moins serein avec quelques nuages sur la Corse, PACA et le relief des Alpes, et sinon donc les minimales qui afficheront 12 à 16 degrés, 18 à 23 du midi toulousain à la Méditerranée. L'après-midi, les températures qui deviennent très très estivales en dépassant souvent les 30 degrés dans les terres, 35 entre la Touraine et le Poitou, de la Charente au midi toulousain, entre Montélimar et Orange, ainsi que dans la vallée du Rhône.
Ça va continuer un petit peu ou pas?
Ah bah ça continue ah bon, dimanche lundi, déjà, mardi, c'est, bien, c'est pas mal. Et puis lundi, grand soleil partout avec toujours ces orages sur le Mercantour notamment. Mardi, grand beau temps sur les deux tiers nord, arrivée de la pluie sur le sud. Mercredi, même tendance. Jeudi, c'est la moitié ouest qui est au soleil et la façade est qui est sous la pluie. Et après, on en reparle.
N'en rajoutez pas, profitez-en bien. Merci Valérie Darmon.
Et c'est le rappel des titres de ce vendredi 23 août avec vous Thierry Dagiral.
Des feux de forêt qui se propagent rapidement en Amazonie et une crise internationale. L'ONU, mais aussi le président Macron, interpelle le président brésilien Jair Bolsonaro pour sauver rapidement le poumon de la planète. Réponse du président Bolsonaro qui accuse son homologue français d'avoir une mentalité colonialiste. Emmanuel Macron souhaiterait que le sujet soit abordé avec les membres du G7 dès demain à Biarritz. Biarritz, ville bunkerisée, ville fantôme, on l'a entendu dans le journal avec Pierre Herbulot qui est sur place, avec des zones de sécurité et 13 200 gendarmes et policiers mobilisés. Un G7 qui sera boycotté par les ONG du réseau Action Climat, elles dénoncent une mise à l'écart. Seules 25 accréditations leur ont été accordées contre une centaine d'ordinaires pour ce genre de rencontres. Des policiers mobilisés donc ce week-end à Biarritz, mais des policiers fatigués et qui appellent à manifester ce soir dans le Pays Basque, dans un lieu tenu secret pour l'instant. Ils veulent dénoncer leurs conditions de travail. Depuis le début de l'année, 47 policiers se sont suicidés. Alors que se termine aujourd'hui la concertation entre le gouvernement et les acteurs du secteur de la rénovation énergétique, sachez qu'à partir du 1er janvier prochain, lorsque vous referez l'isolation de votre maison, vous toucherez une prime dont le montant dépendra de vos revenus et de votre situation familiale. C'est donc la fin du crédit d'impôt. Attention, c'est un gros week-end de retour sur les routes. Aujourd'hui est classé orange sur la majeure partie du pays, mais rouge dans tout le sud de la France et jusqu'au Pays de la Loire. Demain, la circulation sera difficile aussi. Bison futé, voie rouge sur toute la France.
Merci Thierry Dagiral. On vous retrouve tout à l'heure à 18h pour votre grand journal du soir.
À tout à l'heure.
Europe 1, il est 13h et vous retrouvez La France bouge avec Elisabeth Assayag.